Présente Focus tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM
88 FM. Focus
88 FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Focus, toujours en compagnie de Sidi. Comment est-ce que tu vas?
Ça va très bien, ça va très bien. Et quand je suis là, vendredi soir, je suis heureux, toujours, toujours.
Parce que je suis là aussi.
Ça, c'est un peu moins sûr, mais bon. Mais en tout cas, ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de revoir l'équipe, tout le monde, et puis voilà. Et Jamal, comment tu vas, Jamal?
Il y a Farah avec nous aujourd'hui.
Farah, la grande Farah.
Exactement. Et il y a une grande invitée spéciale, il y a Camille.
Ouais, pour une fois. Là, normalement, on doit applaudir, normalement, là, c'est... Il faut applaudir, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et Mélique, toi, ça va mieux?
Moi, ça va mieux. J'étais malade la dernière fois. Là, ça va beaucoup mieux. C'est la période. Hein. Ouais, c'est un système immunitaire très...
Très faible.
Je suis mort. Parce qu'aujourd'hui, les gens...
Voilà, tu es mon frère.
J'attrape tout. Et aujourd'hui, on va parler de combat, de bagarre, de MMA. On l'a déjà fait, notamment avec Malik Sylla.
Exactement.
Et Malik Sylla, il connaît la personne qu'on reçoit aujourd'hui. C'est Tahar Adbi. Comment est-ce que tu vas?
Salut, Malik. Bah écoute, tout va bien. Je suis plutôt content d'être parmi vous ce soir. Bonne ambiance.
On est ravis d'être parmi vous. Recevoir.
En tout cas, nous, ça nous fait très, très plaisir. Justement, ça faisait un moment qu'on voulait faire l'émission avec toi. Parce que Malik, il nous a parlé de toi, tu vois. Et puis donc là, on va essayer de te découvrir, on va essayer de savoir un peu qui tu es, ce que tu fais, et puis parler un peu de ton parcours, parce que justement sur Focus, on est là, on aime bien juste mettre l'accent sur les parcours. On sait que t'as un parcours inspirant et qui peut inspirer aussi d'autres personnes, donc merci d'avoir accepté l'invitation.
Ah, c'est moi qui vous remercie.
Et puis voilà.
Et pour le présenter rapidement avant la première musique, c'est l'homme qui a mis KO son premier adversaire lors de son premier combat professionnel en 14 secondes seulement.
Exactement.
Donc je pense que ça résume bien le personnage.
Donc ça veut dire attention, hein.
Vous écoutez Focus sur IDFM 98FM, on est avec Tahar. Tahar, tu commences ta carrière de MMA en 2008, enfin c'est en 2008 que tu découvres ce sport.
Ouais.
Très vite, tu te fais remarquer. Gagne les championnats d'Île-de-France de Pancras, parce que le MMA était encore illégal à ce moment-là. Dans la foulée, les championnats de France nationaux. Ouais. En 2008, qu'est-ce qui te pousse à pousser les portes d'une salle de MMA?
Bah écoute, un concours de circonstances. Moi à la base, j'avais rien à voir avec les sports de combat. Je ne connaissais pas du tout le MMA, le jiu-jitsu brésilien ou autre sport de combat. J'étais plutôt dans le foot, un peu comme, ouais, comme la majorité des jeunes de mon âge.
Ligaments ou
non, rien de tout ça.
T'as pas fait une Mélique, quoi.
C'est vrai que ma place elle est pas là, moi elle est sur un terrain, mais bon.
Et du coup,
je me suis perdu en route.
Du coup, voilà, en fait, j'avais un ami à moi qui était fan, lui, de sport de combat. Et un jour, il m'a demandé de l'accompagner dans une salle pour faire du MMA. À l'époque, il me disait pas MMA, il me disait du free fight.
Ouais, c'était ça. Hein.
Et moi, comme j'avais un petit tempérament bagarre, j'étais un petit peu... j'avais beaucoup d'énergie, on va dire ça comme ça, quand j'étais un peu plus jeune. Du coup, j'ai accepté de l'accompagner et je me suis retrouvé dans une salle du côté du 13e arrondissement de Paris. La Free Fight Academy, ça s'appelait comme ça à l'époque. Toujours aujourd'hui, c'est un club qui était géré par un pionnier du MMA français, Mathieu Nicourt. Donc voilà, j'ai fait mon premier cours et depuis j'ai kiffé, j'ai pu lâcher. Et ça s'est fait comme ça, j'ai démarré le MMA directement sur le tas sans avoir aucun sport de combat en bagage. Et l'histoire continue, on est en 2024
et t'es toujours présent. Mais moi je voulais revenir justement avant cette période justement de MMA, avant la période où tu découvres le MMA, t'as grandi en Algérie?
Ouais, j'ai grandi en Algérie je suis né en 1987.
OK.
Donc je suis resté en Algérie jusqu'en 95 exactement. Entre deux, je saurais pas vous dire les dates, mais je me suis retrouvé en Espagne aussi, côté de Madrid, parce que j'avais un papa qui était diplomate. Du coup, j'ai voyagé pas mal quand j'étais un peu petit. J'ai pas forcément de souvenirs, parce que comme je viens de vous le dire, j'étais assez petit, je devais avoir 3-4 ans. Les premiers souvenirs que j'ai comme ça, c'est plutôt quand j'étais en Algérie. Donc, on va dire aux alentours de 91, 92. Voilà, 92. Bah écoute, une ambiance comme une autre. Je connaissais rien d'autre à part l'Algérie, les matchs de foot toute l'après-midi. L'équipe qui gagne, elle devait une bouteille de Hamoud Boualem à l'entrée. Et voilà, et après, c'était l'époque des années noires.
Okay.
Donc, le terrorisme en Algérie. Et du coup, moi, j'étais scolarisé dans une école qui était à côté de la maison. Et à l'époque, ces fameux terroristes s'en prenaient même aux écoles. Et donc, il y a une école pas très loin de la mienne qui avait tout simplement explosé pendant la nuit. Donc, il n'y avait pas eu de victimes, mais ils l'ont fait sauter pendant la nuit. Et du coup, c'était un petit peu le truc qui a fait que mes parents décident
de
quitter d'Algérie et de venir en France.
Et voilà, justement, parce que, tu vois, c'est important de le dire, parce que tu dis que t'arrives et tu découvres le MMA et t'étais pas forcément quelqu'un qui était sport de combat. Mais justement, par rapport à cette période que t'as vécue, comme tu l'as dit, des années noires en Algérie, tu vois, c'était 92 jusqu'à
2002.
Ça forge le caractère, ça forge une personne, forcément. Donc, comment t'es ressorti, toi, de tout ça, justement, par rapport?
Bah, écoute, moi, je suis limite né dedans. Donc, quand ton champ de bataille devient une normalité, tu fais pas forcément attention, tu vois. J'ai grandi, t'entendais des bombes qui explosaient au loin. Des fois, t'avais l'armée, tout simplement, qui venait dans notre quartier où j'ai grandi en Algérie. Après, faut savoir que moi, j'ai grandi à Al-Harrach. C'était l'un des bastions du FIS et du GIA, donc il y avait beaucoup de terroristes dans mon coin, donc c'était un peu compliqué, mais on faisait pas forcément attention, parce que pour moi c'était une normalité, je veux dire, il n'y a pas de...
C'est-à-dire, en plus t'es jeune, t'es là, t'es insouciant,
Voilà, exactement, on fait pas forcément attention à cet âge-là, donc de temps en temps on pouvait être amené à rentrer à la maison rapidement, parce que la police nous le demandait, parce qu'il y avait des échanges de tirs à 100 mètres... Parce qu'il y avait une voiture piégée ou une bombe qui avait explosé pas très loin. Donc c'était un petit peu le quotidien, mais pas que de moi, tous les jeunes de mon époque. Et voilà, en fait, c'est ce qui a fait que mes parents, au bout d'un moment, décident de se sacrifier en se séparant. Et moi et mes sœurs, on se retrouve en France, donc en 95. Comme je vous ai dit, il y a une école qui a sauté pas très loin. Et là, c'était la goutte d'eau.
Et c'est fou, parce que là, on vit des choses aussi là actuellement, mais en fait, il y a déjà eu des choses aussi dans le passé qui font que... Et puis là, forcément, tu vois, quand tu dis que tu arrives en France et que tu découvres le MMA, et que je pense qu'il y a aussi cette partie qui disait que tu étais un jeune un peu fougueux, tu vois. Donc ça a peut-être forgé aussi ton caractère et te dire qu'il y a une certaine... rage que tu veux aussi exploiter ou faire, enfin, dégager, tu vois ce que je veux dire?
Bah, moi, j'ai toujours été turbulent, surtout dans ma jeunesse. J'étais très, très hyperactif. Après, écoutez, je passe d'une zone limite de guerre à une autre zone de guerre dans le nord de la France. dans d'autres circonstances, je me retrouve en 95 à Roubaix, dans le nord de la France. Roubaix, c'est l'une des villes les plus pauvres en France. Moi, je voyais la France autrement. Je me suis dit, quand je vais arriver en France,
c'est l'Eldorado,
je vais voir des Français. Et là, je me retrouve avec une grande partie de ma communauté et d'autres communautés. J'ai adoré ça, en fait. Je me retrouve chez mes grands-parents, avec mes oncles, mes tantes. On était beaucoup dans la maison. C'était un autre délire. Mais voilà, Roubaix, qui dit ville pauvre, dit un petit peu les problèmes. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais j'ai eu une enfance aussi, une jeunesse un petit peu compliquée. Voilà, j'avais toujours ma mère qui était derrière moi.
Bah, c'est important.
Du coup, j'ai réussi à m'en sortir là où j'ai beaucoup d'amis qui sont passés notamment par la case prison, par la case même cimetière. Donc voilà, et ça je le dois sans doute grandement à ma mère et à mon père, parce que même s'il n'était pas présent quand j'étais plus jeune, avec le temps et quand on s'est retrouvé en famille tous ensemble, il n'y avait pas besoin de beaucoup parler. C'était un grand homme, il avait beaucoup de charisme. Ça veut dire, mon père, il m'a pas forcément éduqué avec des mots, mais plutôt avec
sa prestance, les attitudes
qu'il avait au quotidien avec sa famille et les gens. Voilà, c'est ça. Donc je me retrouve en 95 à Roubaix. avec la famille côté maternel. Et ça fait partie des plus belles années que j'ai connues.
Et bah oui.
Et ta famille, justement, quand tu te lances en MMA, quel est le regard qu'ils portent dessus? Est-ce que c'est compliqué pour eux? Est-ce qu'ils l'acceptent directement?
Bah écoute, moi c'était un petit peu compliqué, surtout côté paternel. Comme je t'ai dit, j'avais un père qui était haut fonctionnaire de l'État algérien, ouais. Qui était consul d'Algérie en France, et notamment en France et un peu partout ailleurs. Donc pour lui, il visait une autre carrière que le sport de combat. Il me voyait médecin, avocat ou autre. Après, je suis un petit peu têtu quand je suis jeune, comme n'importe quel adolescent, on aime bien faire un peu ce qu'on veut. Donc j'ai eu un petit deal avec mes parents. Je leur ai dit vous me laissez faire le sport que j'aime. Et à côté, je décroche les diplômes que vous voulez. Donc au début, on m'a imposé le bac. Après le bac, j'arrête, c'était le deal. Une fois que j'ai eu le bac, ma mère, elle était derrière, elle m'a dit deux ans, ça va vite. Donc après, j'ai enchaîné avec un BTS. Arrivé au BTS, ma mère m'a dit un an, ça va vite. Hein. Donc j'ai encore enchaîné une année de plus en licence. Et cette fois, après la licence, j'avais décidé de m'arrêter complètement. Et là, ils ont accepté. Je me suis consacré grandement à mon sport à cette période.
Et à un moment de ta vie, j'ai vu que tu avais un peu cette double casquette de combattant, mais aussi d'homme actif, civil, plus lambda finalement. Et j'ai retrouvé dans une interview, je crois que tu avais donné au Parisien, que tu avais dit que c'était en partie pour rendre hommage à ton papa, que tu avais décidé de travailler, de ne pas faire que du MMA.
Ouais, effectivement, moi, faut bien comprendre que je suis issu d'une famille de, on va dire, de commis de l'État, algérien notamment. J'ai mon grand-père qui était soldat, mon arrière-grand-père aussi qui était soldat. Ils ont fait la guerre, ils sont morts pour l'Algérie. J'ai mon père qui était aussi commis de l'État algérien. Côté maternel, c'est un peu pareil. J'avais mon grand-père aussi qui était soldat pour l'armée algérienne. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai jamais représenté la France, par exemple, quand je combattais. Parce que c'est juste... C'est pas que j'aime pas la France, pas du tout. C'est mon pays d'adoption. Je l'adore, je l'aime. J'aime la France. C'est juste que par respect pour les messieurs qui sont venus avant moi, pour mes aïeux, que j'ai décidé de représenter le drapeau algérien. Et voilà.
Il y a des gens qui t'en ont voulu de ça, de ne pas vouloir représenter la France.
Je fais que très peu attention au regard des gens, honnêtement. Je me concentre plutôt sur ma vie, sur mes problèmes. Et s'il y a des gens qui sont pas contents avec ça...
Il y a l'octogone, hein. Ils sont pas contents, hein, tu vois.
Non, honnêtement, ça les regarde. Mais j'ai vraiment fait ça par principe. Parce que, comme je vous ai dit, quand vous avez de la famille qui a donné... qui est mort au combat ou qui a donné... qui a consacré toute sa vie pour une cause, j'ai décidé de suivre la même chose, pas forcément
avec les armes, dans le justement, même contexte, mais voilà. Excuse-moi de te couper, mais c'est ce que j'allais dire, justement. T'es ancré en fait famille, et on le sent justement quand t'en parles, on sent l'émotion. Et est-ce que c'est pas, justement, le MMA, c'est pas une force, t'es aussi un soldat, tu vois, ça veut dire que t'as les grands-parents, parents qui ont combattu justement pour l'Algérie et pour essayer d'avoir une certaine liberté et puis revendiquer certaines choses. Toi, pour rendre hommage justement à ta famille et à ton père en l'occurrence, monter sur un ring et défendre aussi les drapeaux le drapeau de l'Algérie, c'est une sorte d'hommage aussi pour toi. C'est une sorte de soldat. Tu es un soldat des temps modernes en fait, et tu te dis je vais aller au combat et je vais prendre le drapeau Jazzaïr, tu vois.
Non, je peux pas dire ça. C'est la guerre, c'est autre chose. Sur le champ de bataille, les gens ils laissent leur vie. Moi quand je rentre à l'intérieur de la cage, c'est avant tout mon sport. C'est un défouloir. C'est juste l'occasion de prouver qu'on est meilleur que l'adversaire. C'est très fair play. Il y a pas d'animosité. Je compte pas tuer mon adversaire. Je sais que je vais pas mourir. Après oui, dans le sens dans lequel tu dis, je comprends tout à fait. Moi c'est tout simplement un sport qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis justement d'avoir quelque chose à moi et de pouvoir aussi représenter mes deux pays, mon pays, l'Algérie et la France. Mais je le vois pas comme étant un soldat. Ça serait manquer de respect
au vrai soldat, mais c'est quand même en fait c'était un porte-drapeau,
la métaphore,
tu vois,
Ouais, exactement.
Je suis porté le drapeau aussi algérien en France.
Porte-drapeau, exactement. Bah, d'ailleurs, j'ai été reçu plusieurs fois par les autorités algériennes, du coup, qui m'ont remercié justement de pouvoir mettre le drapeau algérien
à l'honneur.
À l'honneur à travers le monde, hein, parce que j'ai combattu dans plusieurs pays différents avant que le MMA ne soit légalisé en France. D'ailleurs, j'ai jamais combattu en France sous les règles du MMA. En pancrasse, oui, mais pas en France. Enfin. Bon, j'ai fait un combat pour l'instant, moi c'était en février 2024.
Ouais, c'était...
Sinon, tout le reste de ma carrière, c'est effectué à l'étranger, donc j'ai réussi à brandir le drapeau algérien un peu partout dans le monde.
Ah, parce qu'on le rappelle, le MMA est légal en France depuis 2020, il me semble, donc
2020,
c'est très récent.
Ouais, c'est super récent en fait.
Ouais, donc la plupart, on a plein de grands combattants français, exactement, mais qui ont tous combattu à l'international, dans les pays de l'Est notamment. Et c'est le cas de plein de combattants que tu connais,
parce qu'il faut dire aussi. Ouais. T'es combattant MMA, donc t'as été pro très vite.
Ouais.
Tu vois. Mais aussi, t'as une autre carrière. T'as une carrière aussi actuellement de consultant, de journaliste sportif, on va dire. C'est-à-dire, comment on fait le parallèle entre arriver en tant que sportif de haut niveau et comment on se retrouve justement en plus, tu commentes ta passion. Tu vois, tu commentes en fait peut-être tes adversaires ou ceux que t'as dû combattre, tu vois.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette chance-là. Moi, pour le contexte, c'est que ouais, je suis passé en professionnel en 2009. Donc j'ai commencé le MMA en 2008, je suis monté très très vite, j'apprenais très vite. Je suis passé par un circuit amateur, le Pancras, donc j'ai remporté deux titres, Île-de-France et champion de France. Et dans la foulée, en fait, on m'a lancé dans le circuit professionnel assez vite sur ce qu'on appelle un short notice. Il y a quelqu'un de ma salle qui devait combattre en Allemagne et il s'est blessé, il me semble que c'était à 10 jours du combat. Et donc j'avais mon entraîneur de l'époque, Mathieu Nicor, qui me dit voilà, tu fais partie de la même catégorie, je pense que tu as les armes pour pouvoir le remplacer, est-ce que ça te tente de faire le grand saut? Je lui ai répondu oui tout de suite, et voilà, j'ai fait mon premier combat pro en 2009. C'était dans une ville qui s'appelle Baumölder, dans une base américaine en Allemagne, contre justement un soldat américain. Donc ça s'est bien passé, j'ai gagné.
14 secondes, ouais, je crois, c'est ça?
Le fameux 14 secondes. Et ensuite, voilà, ma carrière, elle a continué jusqu'à présent.
Et comment tu l'expliques, excuse-moi, mais ce bond en professionnel si rapide, est-ce qu'il y avait moins d'adversité ou est-ce que tu étais simplement fait pour ça?
Non, c'est pas une question d'adversité, sachant que moi je combats dans une catégorie où il y a énormément de monde. La catégorie des 77 kilos, c'est une catégorie qui est extrêmement fournie. C'est très très compliqué de percer dans cette catégorie-là. C'est vraiment un concours de circonstances, là aussi, les étoiles, elles étaient alignées. Je venais de faire champion de France. Dans la foulée, il y a une place qui s'est libérée. Et voilà, j'ai sauté dessus.
C'est l'opportunité qui s'est présentée. Mais j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est une différence d'époque, mais qu'à l'époque, c'était peut-être plus facile ou que le chemin était plus court de passer en professionnel. Aujourd'hui, les amateurs ont des circuits et des parcours beaucoup plus longs, avec les IMAF notamment. Ils vont faire leurs preuves déjà en amateur avant de passer professionnel. Pour le coup, t'as fait tes preuves en amateur, hein, t'as gagné les Île-de-France et le championnat national. Mais j'ai l'impression que le chemin est différent.
Non, c'est juste que qu'à mon époque, c'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui. À mon époque, il y avait pas la possibilité d'aller sur un circuit amateur. C'était vraiment du pancras. C'est un sport à part entière qui ressemble un petit peu au MMA ou au sambo. Il y a pas de frappe au sol. C'est juste ça la différence. Avant, on n'avait pas cette possibilité de pouvoir progresser sur un circuit qui allait pas entacher notre carrière professionnelle. Parce que quand vous combattez en amateur, que vous gagnez ou que vous perdiez, votre fiche professionnelle reste vierge. Donc le circuit amateur, ça vous permet de prendre de l'expérience, de continuer à progresser techniquement et d'engranger aussi des titres et de vous faire connaître à l'international, notamment en devenant, pourquoi pas, champion d'Europe, IMAF, champion du monde, etc. Et ensuite, ça vous facilite les portes du monde professionnel, vous avez un peu plus de reconnaissance, vous pouvez signer tout de suite dans de plus grosses organisations assez tôt, vous pouvez aussi négocier les salaires, tout simplement parce que vous êtes déjà connu sur le circuit amateur, ça facilite les choses. Nous, à notre époque, non. À notre époque, il fallait vraiment aller au charbon pour pouvoir grimper, monter le plus haut possible. Fallait passer. En fait, on nous envoyait comme de la chair à canon. Quand on allait à l'étranger, on était envoyé pour se faire tabasser.
Ouais, c'est ça. En terrain hostile.
Et donc on était, ouais, exactement, toujours en terrain hostile. Moi, je me suis retrouvé parfois au fin fond de la Russie. J'étais pas le bienvenu.
Et ça, c'est sûr. Et après, pour répondre à ta question, Mélik, c'est que là, maintenant, comme tu dis, ça s'est démocratisé. Oui, en fait, avant, ça a essayé de se démocratiser, en fait, dans les années où t'as commencé, justement, avec les 100% fight, les contenders et tout ça, tu vois. Donc, il fallait aussi contourner la loi pour se dire que...
Mais j'ai fait tout ça.
Voilà, mais il y avait les interclubs aussi, je pense que t'as dû les faire, tu vois. Et il y avait, en fait, ce truc où... Il y avait un engouement en fait pour le MMA, mais il y avait aussi toujours ce truc en termes de légalité où en fait si jamais tu te fais attraper c'est compliqué, mais voilà, c'est des pionniers en fait, et c'est les premiers qui ont représenté et qui ont fait que aujourd'hui le MMA est légalisé en France, tu vois. Et je pense que c'est important de rendre hommage en fait à toutes ces structures qui étaient là. Je parle du 100% fight, les Cage Warriors et tout ça.
Stéphane Hatch, c'est un pionnier. Pionnier, c'est lui qui nous a permis justement de pouvoir combattre en France à l'époque à travers le 100% fight.
Exactement.
Donc ces événements, je connais, j'y ai combattu à quelques reprises. Voilà, je sais. Comme beaucoup de combattants de ma génération d'ailleurs. Et voilà, c'est des bons souvenirs. Ça nous a forgé. Et je pense que moi, l'époque à laquelle j'ai combattu, elle a créé beaucoup de champions, beaucoup de combattants.
Beaucoup de champions qui sont là et qui, ou même qui, même s'ils sont plus là, ils sont passés de l'autre côté. Maintenant, il y a toi qui combat encore, ou après, peut-être t'entraînes, peut-être que tu montes ton académie, peut-être, tu vois. Et c'est ça qui est beau.
Et au moment où tu gagnes ton premier combat, 14 secondes, victoire par KO.
Incroyable.
Je pense que l'euphorie est à son summum. Ouais. Est-ce que tu te dis que ça y est, finalement, il y a possiblement moyen d'en faire sa vie, de gagner sa vie de cette manière? Ou est-ce que le cadre légal en France qui restreint le MMA te met toujours des limites?
Non, gagner sa vie du MMA à l'époque, c'était compliqué. Mon premier combat, je l'ai gagné en 14 secondes. Après, j'ai eu un chèque de 150 euros. Tu vois, mon premier chèque.
Ah, c'est normal, c'était 1 euro la seconde.
Mon premier chèque, en MMA, c'est 150 euros.
On en rigole, mais en vrai, c'est 1 euro ou 10 euros, là, peu, tu vois.
J'ai même déjà combattu gratuitement à l'époque. Hein. Tu me parlais de... je combattais pour un sandwich.
Ouais, pour un sandwich. Parce que c'est ça, il n'y avait pas forcément les moyens, tout ça, mais il y avait des vrais combattants, en fait, vraiment.
Il y avait des vrais combattants, mais après, les salaires de l'époque ne sont pas les salaires qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Même si j'avais percé, par exemple, et que j'avais combattu à l'UFC à l'époque, les salaires ne sont pas les salaires qu'il y a aujourd'hui. C'était pas des millions pour les combattants. Aujourd'hui, on a des McGregor, des Khabib Nurmagomedov ou d'autres combattants, John Jones, qui touchent des millions par fight. À l'époque, c'était pas du tout ça. Tu gagnais 100 000 $, c'était déjà très très bien. Et 100 000 $ pour les avoir à cette époque-là, fallait vraiment être dans le très très haut du panier. Donc, c'est deux époques qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, ça a bien bien évolué à tous les niveaux, que ça soit à l'UFC ou en France ou ailleurs. Donc je pense que voilà, avec le temps, c'est un sport qui brasse énormément d'argent, et plus le temps va évoluer, plus les cachets seront importants, conséquents, et on est surtout dans une discipline où il y a quand même pas mal de combattants qui militent pour avoir des conditions salariales qui sont un peu plus décentes. Là, je parle plutôt de l'UFC, mais on essaye de se rapprocher des autres ligues majeures qu'il peut y avoir, la NBA par exemple, la NFL, etc. Et les combattants essayent de pouvoir négocier quelque chose de plus intéressant en termes de revenus. On essaye de faire du 50-50 par exemple, 50 pour la ligue, 50 pour les combattants. Donc c'est des choses qui vont se mettre en place avec le temps. Il faut du temps. Ça reste un sport qui est quand même assez jeune, parce que mine de rien, voilà, les débuts de l'UFC, on est dans les années 90. Donc c'est un sport qui reste quand même jeune et qui n'est pas aussi structuré que d'autres sports professionnels, mais ça va venir avec le temps. Et je pense que viendra un moment où on sera considéré comme des footballeurs, comme des tennisman, comme des peu importe, des athlètes professionnels qui gagnent des revenus au mois correctement. Et beaucoup de générations futures pourront vivre justement de cette passion. Après, il y a les sponsors aussi qui peuvent toujours venir aider. Il y a tout ce qui est extra qui peut s'ajouter, voilà, extra sportif qui peut s'ajouter pour faire en sorte que vous puissiez vivre de votre sport.
Et j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie, mais ça veut dire que cette génération dont tu fais partie,
c'est la génération sacrifiée.
La génération sacrifiée.
Non, mais vraiment, mais je le dis parce que moi, à l'époque, je faisais beaucoup tu vois, tous les tournois, les 100% fight, Hatch qui vient d'Aubervilliers, donc on était dedans, tu vois. Et on voyait qu'il y avait vraiment des talents, en fait. Il y avait des gens, tu dis, ah ouais, tu le vois, et tout tranquille et tout ça, mais en fait, il casse des gueules, vraiment, tu vois.
Ouais, ouais, c'est ça, mais et... regarde, là, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Par exemple, moi, j'ai un exemple pur et dur, puisque t'as parlé de Hatch. On a Saladin Parnasse, par exemple. Il a commencé à une autre époque. Ses premiers combats, il mangeait des sandwichs.
Exactement.
On le remercie en lui donnant un sandwich. Aujourd'hui, il fait partie des plus gros salaires du MMA français. Si ce n'est le plus gros, derrière peut-être Cyril Gane ou Nassour Dinimavov. Mais voilà, ça évolue dans le bon sens.
Et c'est important de le dire. Et c'est important de le dire. Et c'est pour ça qu'on te remercie justement, Tahar, d'être là et d'en parler et de mettre... Même si on n'est pas un gros média, on va le devenir, hein, tu vois. Tu vois, le MMA, voilà, exactement. Et mais c'est important justement de mettre tout ça en avant, de mettre la parole aussi des combattants en avant. Et puis toi aussi, qui as un parcours inspirant, et t'as un parcours aussi qui est chemé d'embûches et tout ça. Donc on va en reparler. Mais avant ça, Melik.
Je pense que c'est le moment de te découvrir en musique. C'est un peu la tradition ici. Tu nous as proposé des morceaux, tes artistes un peu préférés, ce que tu écoutes en ce moment. On va s'écouter un premier extrait et on revient tout de suite sur Focus.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM.
Sweden Fire, j'aurais pas cru que t'allais choisir ce genre de morceau.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que c'est un homme serein, calme, tempéré. Là, il nous sort un morceau.
Justement, c'est pour ça justement qu'on aime bien cette séquence, parce qu'on va le découvrir sur un autre aspect.
Exactement. À quelle occasion t'écoutes ce genre de musique?
Non, c'est un son intemporel. Bon, faut pas oublier, je suis un rebeu. Hein.
C'est là où j'avais la funk.
Non, c'est un groupe que j'aime bien, notamment September aussi. Ils ont d'autres sons qui sont qui font bouger. J'écoute ce genre de son quand je suis joyeux, quand je suis content. Voilà, j'ai une bonne nouvelle. Allez hop, je le mets dans la voiture sur le chemin de l'entraînement, le chemin du boulot. Ça égaye ma journée.
Et comme tu disais, Melik, c'est un homme serein et on le voit quand t'arrives, tu dégages une certaine sérénité. Mais c'est dû à quoi? C'est quoi? C'est le parcours qui fait ça? Comment?
C'est le parcours. Je te dis, moi, je suis très très réservé sur ma vie. Je discute pas beaucoup de ma vie parce que chacun a ses problèmes. Mais j'ai eu un parcours de vie qui fait que aujourd'hui, je relativise beaucoup sur tout. C'est-à-dire, je me prends très peu la tête. Il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont pires que ce qu'on peut vivre, que ce que j'ai pu vivre moi aussi dans mon passé. Donc voilà, tu relativises. Je suis quelqu'un qui est très terre à terre.
C'est très sage comme propos.
C'est vrai que et justement, c'est très sage comme propos, parce que des fois, on se dit, nous, on se prend la tête pour un truc, hein, on a mal là, t'es là, t'es en train de chialer depuis tout à l'heure, ouais, j'ai mal au ventre, j'ai mal à, tu vois. Et en fait, comme tu dis, il y a des choses qui se passent, il y a vraiment des choses qui se passent, et on en reviendra justement par rapport à ton parcours, Tahar, si tu nous le permets. On en reparlera justement de cette période de ta vie où ça a été compliqué. Mais là, tu choisis justement un moment festif ou un moment où même Melik il est étonné, parce que faut dire, tu vois, vous travaillez ensemble.
C'est surtout parce qu'il connaît pas Melik, c'est surtout.
Comment ça, je connais pas? Mon daron, si je l'ai pas vu danser sur son cachette dans le salon.
non, mais c'est important de voir, parce que tu découvres aussi une autre personnalité, une autre facette aussi des gens qu'on connaît. Tu
Après, vois. Je la connais, la facette plus jovial, rigolote et tout.
On rigole beaucoup, c'est vrai.
Ouais, bien sûr. Faut pas juste se fier à ce qu'on entend aux apparences, mais c'est vrai que dans la généralité, la grande partie des cas, t'es quelqu'un de très posé, très serein et.
Ouais. Bah après, je pense que le groove, c'est un son qui fait beaucoup.
Ah, c'est validé en tout cas.
Même quelqu'un qui connaît pas la nouvelle génération, tu vas lui mettre, il va forcément bouger.
Je sais pas s'il va avoir les mêmes pas de danse que à l'époque, mais.
On fait un petit show après, j'allais te voir, moi. Je veux pas dire
ancien. Pas de
problème. On va passer au deuxième extrait, Tahar, et on revient tout de suite.
Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
De Idir, c'est un son qui a souvent été choisi par nos invités, qu'on aime beaucoup ici, qui fait un peu l'unanimité. Pourquoi ce deuxième choix ?
C'est une icône de la musique, de la chanson, de la culture kabyle algérienne. Je suis d'origine kabyle, donc il a beaucoup tourné quand j'étais jeune. Chez moi, j'ai mon père sur le trajet du bled, comme on appelle ça. On a souvent tendance à, quand on dit bled, on parle souvent du pays en soi. Mais moi, quand j'étais petit, j'habitais du côté d'Alger, donc comme j'ai dit, vers Al-Harrach. Et chaque week-end, on devait aller au bled. Le bled, c'est mon petit village à 800 mètres d'altitude en Kabylie.
La grande ou la petite?
La grande. Ouais, je peux te dire qu'il n'y a rien à faire. Le bled, passe pas. C'est vraiment un village authentique. C'est il n'y a pas plus authentique que ça. C'est ce qui veut dire que tout est construit autour de la mosquée. Il y a une mosquée, le cimetière et les quelques habitations avec les 3-4 familles qui peuplent ce village. Donc je suis issu d'un petit village qui s'appelle Tamazirt en Kabylie. Et c'était la routine hebdomadaire. Chaque week-end, on devait aller là-bas pour rendre visite à la grand-mère, à la famille, etc. Donc c'est Idir, ça fait partie des monuments de la musique kabyle, de la musique algérienne. Partout dans le monde, c'est un grand monsieur. Je pense que grâce à lui, il y a beaucoup de monde, hors Algérie bien évidemment, qui ont pu découvrir la musique algérienne, la musique kabyle, l'Algérie aussi, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup exporté à l'international, surtout cette chanson-là. Donc voilà pourquoi ça a bercé mon enfance et je l'écoute quand j'ai un coup de moins bon, un coup de mou.
Donc là, c'est vraiment à l'opposé du premier son. Finalement, je pense que on ne peut pas aimer ce morceau. Hein. Je pense que très rares sont les personnes qui n'apprécieraient pas.
Et surtout même ceux qui ne sont pas, tu vois, et qui n'ont pas vécu aussi, qui n'ont pas l'histoire et l'historique.
Ouais, bien sûr,
tu vois, c'est une berceuse, ça te transporte, tu vois.
Et là, pour le coup, c'est un peu ta Madeleine de Proust, finalement, ce morceau. On va passer au dernier et troisième extrait.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, au soleil.
Charles Aznavour, est-ce qu'on serait pas sur un peu le Idir français finalement?
Ah, je sais pas. Après, c'est à tard de le dire. Est-ce que
non, la chanson française, elle a beaucoup d'icônes. Charles Aznavour en fait partie, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Piaf, Claude François, Francis Cabrel.
C'est vrai.
Plus récemment. Il y a des monuments en France.
C'est vrai. Et pourquoi ce choix Emmenez-moi, justement? Pourquoi Aznavour? Qu'est-ce que ça représente en France? Qu'est-ce qu'il représentait?
Aznavour, c'est quand je suis arrivé en France, en fait. je suis arrivé en France et j'ai commencé à découvrir un petit peu cette nouvelle culture, parce qu'il faut bien comprendre que moi, quand je suis arrivé en 95, je parlais pas un mot français. Je suis venu ici, je parlais l'arabe et l'espagnol. Aujourd'hui, je parle plus l'espagnol. Je l'ai oublié, j'étais trop petit, donc c'était l'une de mes langues maternelles. Donc voilà, en apprenant un petit peu, en apprenant un peu plus sur la culture française, la façon de vivre ici, etc. Bah, je me suis tourné vers la musique. Pas que Charles Aznavour, mais il y avait beaucoup de hip-hop, il y avait beaucoup de culture américaine aussi, hip-hop américain, et Charles Aznavour, tout simplement, ça tournait beaucoup à la maison, chez les grands-parents, c'est plutôt la génération de mes grands-parents, et en fait, quand tu l'écoutes, peu importe l'âge, importe d'où tu viens, etc., tu vas forcément accrocher à la mélodie. Et après, en tant que personne lui-même, c'est quelqu'un qui est inspirant. Aznavour, c'est quelqu'un qui a jamais abdiqué, qui a jamais lâché l'affaire. Il avait un objectif dans sa vie. Et peu importe par où il est passé,
les obstacles,
X fois, etc. Ouais. Il a quand même réussi. Aujourd'hui, fait partie du patrimoine français.
C'est exactement ça.
En tout cas, je valide très très fort la sélection. J'apprécie les trois morceaux. C'est quoi ton rapport à la musique, mais lié au sport de combat? On sait que pour les entrées dans l'arène, on choisit souvent un morceau dans la plupart des organisations. Toi, quel style tu choisissais et pourquoi?
Mon dernier combat en France au Mans, je suis rentré avec le début d'Edith Piaf.
D'accord.
Et après, je suis parti sur Disco Maghreb de DJ Snake.
Ça résume bien le personnage.
C'est un petit peu mais voilà, c'est un petit peu mes deux cultures qui se sont associées sur un morceau, sur mon entrée. Après, je le dis souvent, j'ai pas forcément un genre en particulier que j'apprécie plus qu'un autre. Moi, c'est vraiment la mélodie. Est-ce que ça va bouger, est-ce que ça va pas bouger, etc. J'ai vraiment une oreille qui est disponible pour tout. Et voilà, je peux écouter de la funk, je peux écouter du reggaeton, je peux écouter de la house, je peux écouter de l'électro, je peux écouter du hip-hop, je peux écouter du classique. J'aime beaucoup le classique aussi, j'aime bien Mozart, j'aime bien Beethoven. J'ai pas mal de trucs comme ça.
Et justement, c'est bien d'avoir cette culture musicale.
Beethoven, tu l'as aussi?
Bien sûr, je l'ai. j'ai Schubert aussi. Tu connais pas?
Oui, Schubert, bien sûr.
Tu me perturbes. Tu me perturbes. Et comment justement, en plus là, t'arrives dans une période où, parce que là, t'es là avec nous, t'es en interview, mais tu prépares un combat aussi dans pas longtemps.
Ouais, exactement.
Et c'est quoi la préparation d'un combattant de MMA? Tu vois? Parce que là, on te voit super tranquille, serein, comme tu disais, Melik. T'es là. C'est quoi? Comment tu te prépares? Comment tu te conditionnes justement en te disant que dans deux semaines, trois semaines, j'ai un combat?
En fait, c'est beaucoup de sacrifices. On se rend pas compte, mais c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je n'ai pas que le combat dans ma vie. Hein. Je travaille aussi en tant que consultant chez Canal+, une vie de famille. Je suis papa de deux enfants, deux magnifiques enfants, j'ai une femme. Donc, c'est compliqué un petit peu de jongler avec tout ça, mais on va dire que c'est une grande partie de ma vie. J'ai commencé en 2008. On est en 2024, j'allais dire 2034. On est en 2024. C'est une très très grande partie de ma vie, donc je pense que avec le temps, je sais faire la part des choses. Je réussis à m'adapter. Après, on prépare un combat avec beaucoup de rigueur, tout simplement beaucoup de rigueur. Je suis à l'entraînement le matin, je suis à l'entraînement le soir. Entre les deux, je me repose. J'ai aussi une diète qui est intransigeante, parce que faut savoir que je perds beaucoup de kilos pour aller dans la catégorie de combat dans laquelle je combats aujourd'hui. Donc voilà, c'est beaucoup de sacrifices et c'est une routine, mais c'est une routine que j'aime. Donc c'est pour ça que je combats toujours.
Et ça se voit justement quand t'en parles, justement que t'as toujours tout de suite le sourire. Et c'est ce qui est beau justement. Et on va revenir après sur ta partie de carrière aussi qui a été un peu compliquée. Mais avant ça, on va se faire un petit morceau et on revient tout de suite. Et
juste, je rajoute une petite info pour le combat le 14 décembre au Wokoff, donc dans pas très longtemps, contre Carlos Salazar, un Vénézuélien. On te souhaite tout le courage du monde et la force nécessaire pour venir
à bout de ce nouvel adversaire. On sera au premier rang.
Vous écoutez toujours Focus sur IDFM Radio 98 FM. On est avec Tahar Radbi encore et toujours Est-ce que t'as passé un bon moment déjà avec nous depuis le début de cette émission?
Top, je me régale.
Bah écoute, on a même une petite surprise pour toi. Tu connais Malik Sylla.
Ouais.
Malik, on l'a reçu sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est sa fille qui a pris sa casquette de journaliste et qui a quelques questions à te poser. Elle est avec nous autour de la table.
Bonjour Tahar, j'avais une petite question pour toi. Dans ton rôle de combattant, est-ce que t'effectues un rituel avant tes combats?
Ouais. Depuis toujours, moi, je suis quelqu'un qui vit ma fight week de manière plutôt cool. Et avant mon combat, j'aime bien aller au cinéma. Ce qui veut dire que pendant ma fight week, j'ai beaucoup de poids à perdre, donc je me concentre sur tout ce qui est cutting. C'est le fait de perdre plusieurs kilos en déshydratation pour valider votre pesée de combat, pour valider pardon la pesée de combat. Et une fois que j'ai passé cette étape la plus dure, j'ai une reconstruction alimentaire et derrière, dès que je me sens mieux, j'aime bien aller au cinéma, me détendre, faire un petit restaurant avec les potes et regarder un bon petit film.
Ça, c'est un mystère que je pense que beaucoup de gens aimeraient élucider.
Exactement, comment, et j'allais poser la même question, Mélix, c'est pour ça qu'on est connecté.
T'expliques qu'avant un combat, du coup, tu fasses ta perte de poids, que tu arrives au poids le jour de la pesée, mais que le jour du combat, certains combattants reprennent 5, 8, voire 14 kilos. Comment est-ce que c'est possible physiquement?
Faut bien comprendre que quand vous perdez du poids, c'est juste de la déshydratation, pardon. Donc vous perdez de l'eau, ce qui veut dire qu'une fois que vous êtes pesé à votre poids de combat, vous rebuvez derrière, vous faites une reconstruction alimentaire. C'est pas que de l'eau pure qu'on boit, parce qu'il faut ajouter des électrolytes, d'autres produits pour essayer de récupérer au maximum et très très rapidement. Mais voilà, ensuite vous récupérez tout simplement ce que vous avez perdu en eau, ce qui veut dire que si j'ai perdu un litre d'eau, si je rebois un litre derrière, j'ai récupéré le poids que j'ai perdu.
C'est tout à fait logique, mais ça paraît surprenant, surtout de reprendre autant de poids en si peu de temps pour beaucoup de gens.
Ça a toujours été un mystère. Après, pour ma part, moi, ça a toujours été un mystère. J'arrivais pas à comprendre, tu vois. Donc là, ça m'éclaircit un peu mieux et je respecte tous ces combattants.
C'est dur.
Parce que c'est très dur.
C'est très dur. C'est la partie la plus compliquée du combat, c'est ça. Si on pouvait se passer de ce problème-là, franchement, volontiers. Mais...
Parce que toi, ton poids de forme, c'est ton poids de combat.
Mon poids naturel, je suis aux alentours de 93 kilos.
Okay.
93 kilos. Après, ça dépend. 93 kilos, quand je maintiens une diète quand même plutôt
saine,
cool, voilà, ouais. Je mange, je me fais plaisir, etc. Après, quand je suis hors forme, okay, je peux monter à 100 kilos, ce qui était le cas il y a un
peu. Ah, ça se voit pas.
Bah là, j'ai beaucoup perdu. Donc, il y a quelques semaines en arrière, je pesais à peu près 102 kilos. Aujourd'hui, depuis quelques semaines maintenant, j'ai effectué une très bonne diète. Donc là, j'ai réussi à descendre sous la barre des 92 kilos. Donc là, actuellement, je dois être aux alentours de 91, 8, 92. Je sais pas exactement, j'ai pas vérifié. Mais il me reste encore pas mal de kilos pour descendre à 84, puisque la catégorie de combat, c'est 84.
C'est 84, d'accord.
Donc voilà, après arriver au poids que je me suis fixé, je vais commencer le cutting. Donc le poids que je me suis fixé, c'est en dessous de 90. Donc il me reste encore quelques jours pour atteindre cet objectif-là. Et arrivé sous la barre des 90 kilos, je vais commencer ce qu'on appelle le cutting, tout simplement. Je vais tout simplement éliminer tout ce qui est carbohydrates. Je vais arrêter sucre, sel. Et je vais baser mon alimentation uniquement sur des légumes, peser les quantités et de la viande. Donc je vais manger ça pendant 3 jours pour essayer de perdre encore 1,5 kg à 2 kg maximum. Et ensuite, c'est de la déshydratation uniquement. Donc c'est de la sudation, du sauna ou du bain.
C'est toute une science. Et comment est-ce que c'est encadré tout ça par ton équipe, les médecins? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des dangers liés au cutting.
Bah exactement. Bah de toute façon, c'est très contraignant pour le corps. C'est même limite interdit. Les médecins me l'interdisent. Ils l'interdisent à n'importe qui d'autre. De toute façon, la déshydratation, plus de 2 kilos, c'est compliqué. Le corps, il subit, il est choqué, tout simplement, bah, parce que vous perdez de l'eau, et il faut savoir que 70% du corps, c'est de l'eau. Donc, c'est dangereux, faut vraiment être avec des spécialistes, faut vraiment avoir une équipe qui connaît tout le process, et qui puisse vous accompagner. Donc, moi, c'est le cas, je suis entouré de mecs qui connaissent parfaitement la diététique et le cutting. Donc, j'ai jamais eu de problème, jamais raté de peser. Donc ça fait maintenant quasi plus de 15 ans de carrière. J'ai jamais raté une pesée, donc je maîtrise un petit peu la chose. Mais effectivement, faut pas le faire. Je le fais moi, bah parce que c'est moi, j'ai pas le choix. Et je pense que tous les combattants, on est un petit peu pareil. Mais si je devais conseiller quelqu'un, je dirais non, faut pas le faire.
coup, j'avais une autre question. Est-ce que tu penses qu'on doit avoir des qualités requises pour devenir un bon combattant?
Non, pas forcément. Faut juste être assidu aux entraînements, être à l'écoute et surtout avoir de la volonté. C'est ça la qualité, si tu peux appeler ça. Ouais, qualité, c'est vraiment la qualité, c'est avoir la volonté. Mais je pense que c'est comme pour tout dans la vie. Tu as des objectifs, ben, si tu veux les atteindre, il faut de la persévérance.
Et je pense que la persévérance, tu l'as. Je voulais revenir, moi, sur une période de ta vie. Là, on a déblayé pas mal de choses. Et comme tu as dit, tu étais très vite professionnel, quelqu'un de très sportif, de très engagé justement dans le MMA. On arrive en 2019, donc là où il y a justement cet accident qui t'arrive. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et tu sais qu'il faut aller avoir le mental. Et, moi, j'aimerais savoir un peu comment tout ça s'est arrivé.
Bah écoute, je sais pas comment c'est arrivé. On sait pas. Les médecins ne savent pas. Alors si tu as un petit peu le contexte, je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup, qui suis en forme, je fais très très attention à ma santé, je suis très suivi. J'ai été très suivi même avant cet épisode-là. Donc cardiologue à peu près tous les 6 mois, les médecins du sport, etc., kiné, j'ai un staff autour de moi qui s'occupe bien de moi quand même. Et donc rien ne présageait ce qui m'est arrivé. Donc en avril 2019, j'ai eu un infarctus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine avant, j'étais en Russie pour une organisation qui s'appelait l'OM1. J'accompagnais Mickaël Lebout, qui est un très bon ami à moi, vétéran UFC, etc. Bref, c'est quelqu'un de ma génération, combattant exceptionnel. Donc on va en Russie, il fait son combat, etc. Et donc on rentre le dimanche soir du Kazakhstan et on reprend l'entraînement le lundi, lundi midi. Donc moi, je fais mon entraînement du lundi midi et arrivé à la fin de l'entraînement, j'ai des aigreurs, j'ai des brûlures respiratoires. Et donc moi, je mets ça sur le fait que j'étais une semaine au Kazakhstan, je mangeais épicé, je mangeais pas bien, bref, c'était une semaine qui était un petit peu compliquée. Donc je me suis dit, je suis en train d'évacuer toutes les conneries du Kazakhstan. Donc je fais pas forcément attention et donc je rentre chez moi. Et plus la journée elle passe, plus c'est compliqué. Je sue, mais vraiment abondamment, sans savoir pourquoi, alors que je suis allongé sur mon canapé. J'ai des troubles de la vision, à un moment je vois flou, à un moment je vois bien. Je vomis plusieurs fois dans la journée, les brûlures elles s'accentuent, j'ai vraiment mal au niveau de la poitrine et là je me dis il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible. Donc il devait être à peu près 13h30 quand j'ai eu les premiers symptômes, à peu près 18 quand j'arrive chez mon médecin traitant, parce que je vais pas aux urgences, je vais directement chez mon médecin traitant. Et là, comme il me suit dans le cadre du sport depuis toujours, il me dit qu'est-ce qui va pas. En plus, c'était un film à cette époque-là. Je me rappelle comme si c'était hier. J'arrive avec ma voiture, je la laisse en plein milieu de la route, les feux ouverts, enfin les carreaux ouverts, la voiture. Je sais même plus ce que je faisais en fait. J'arrive dans le cabinet médical, il est en pleine consultation, j'ouvre sa porte quand même. J'étais vraiment.
C'est la détresse qui.
J'étais vraiment dans un état second. Je comprenais même plus ce que je faisais. Donc là, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc il a sorti le patient avec qui il était directement. Et il m'a fait m'allonger sur son brancard, je sais pas comment on appelle ça,
son lit de médecin.
Son lit de médecin, voilà. Et là, il me dit qu'est-ce qui va pas. Je lui dis voilà, ça me brûle, je vois flou, j'étais en train de suer vraiment. Et à un moment donné, il me fait un électrocardiogramme. Et quand il me fait un électrocardiogramme, je vois qu'il devient un peu blanc, bizarre. Et comme ça reste un généraliste, il veut prendre l'avis d'un cardiologue, le même cardiologue qui me suit pour ma carrière sportive, ils se connaissent très bien les deux. Donc il lui envoie la photo du compte-rendu de l'électrocardiogramme, et là le docteur le rappelle même pas une minute après, en lui disant c'est qui ce patient, il est en train de faire un arrêt cardiaque, contacte le SAMU, donne-lui une aspirine. Et au début, je pensais que c'était une blague, parce qu'on était en avril. Je me suis dit, il est en train de me faire un poisson d'avril, et tout, c'est pas marrant.
Elle est dure, là.
Mais t'arrives quand même à penser à un poisson d'avril.
Non, je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un de toujours serein, très calme. Donc, effectivement, il m'arrive un truc bizarre, mais je pense pas à la mort, en fait. Je me dis pas que je peux mourir d'une seconde à l'autre. Et du coup, j'ai compris que c'était sérieux quand il me demande d'appeler ma mère et ma femme. Il me dit, appelle ta mère et tout, il faut que tu préviennes là tout de suite. Et donc, moi, je lui dis, je veux bien appeler ma femme, mais j'appelle pas ma mère. Je lui dis, t'appelles ma mère. C'est un médecin de famille, c'est toi qui dis ça à ma mère. Parce que voilà, j'ai eu des, je dis j'appelle pas ma mère tout simplement parce que moi j'ai mon père qui est décédé d'un infarctus aussi. Et que ma mère, elle avait connu une période de sa vie qui était extrêmement compliquée à ce moment-là. Elle avait perdu ses parents, mon père, dans la foulée, etc. Et moi, je suis son seul fils. Donc je me suis dit, si je l'appelle pour lui annoncer ça, elle va un petit peu revivre cette période-là là, de sa vie, qui était un petit peu compliquée, donc j'ai pas envie de lui annoncer ça. Donc je dis à mon médecin, tu l'appelles, tu te débrouilles avec ma mère, et voilà. Et moi, j'appelle ma femme. Donc j'appelle ma femme, je dis, voilà, il y a ce problème-là, ils vont m'emmener à l'hôpital, etc. Et voilà, donc il prévient ma mère, et je me rappellerai comme si c'était hier. Ma mère, elle arrive avant le SAMU. Et pourtant, l'hôpital était à côté de chez le médecin. Donc, j'étais à Créteil, c'était Henri Mondor. Donc, le SAMU, il est arrivé genre 5 minutes après ma mère. Je sais pas comment elle a fait encore jusqu'à ce jour.
C'est la magie des mamans.
Elle s'est transportée là. Donc voilà. Et après, ben, quand j'ai vu ma mère, moi, je me sentais vraiment pas bien. Donc, j'essayais de garder le moral pour elle. Je lui faisais des petits sourires. Je lui disais, t'inquiète pas, maman, ça va. T'inquiète. Et du coup, ben, le SAMU arrive, les pompiers arrivent. Ils me font une panoplie de tests et ils me disent « Ah oui, effectivement, c'est compliqué. » Donc on me met dans l'ambulance et on patiente quelques minutes devant le cabinet du médecin pour savoir quel hôpital allait pouvoir avoir un bloc opératoire de libre, disponible tout de suite dans la foulée. Donc ça a pris 3-4 minutes et ensuite direction Henri Mondor. Et pendant qu'on m'emmène, j'ai les docteurs qui m'expliquent un petit peu, ils me sortent une aiguille, ils me disent attention, ça c'est une piqûre d'adrénaline, au cas où ton cœur s'arrête, on va piquer, il y a ci, il y a ça, donc t'inquiète pas, t'as entre de bonnes mains, tout va bien se passer, etc. Et voilà, bah après j'arrive en Henri Mondor, direction bloc opératoire, et on me prend en charge tout de suite, en m'expliquant ce qui m'arrive bien évidemment. Et après, franchement, un grand merci aux médecins, aux chirurgiens qui étaient là, parce que Ils sont vraiment sous pression, mais tu le remarques pas, en fait. Moi, quand ils sont en train de m'opérer, pour m'aspirer le caillot qui bloquait la coronaire, en fait, tu les entendais discuter de tout, mais vraiment de tout et de rien. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir?
t'es là, t'as envie de leur dire. Oh.
Non, mais en fait, après, je leur ai posé la question, moi. Ouais. Je leur ai dit, mais comment vous avez la vie d'une personne comme ça, entre vos mains, elle peut mourir d'une seconde à l'autre? Et en fait, ils me disaient que c'était une technique de médecine pour faire en sorte que le patient, justement, il se calme. Et donc, parler de tout et de rien, inconsciemment, vous vous dites, bah, en fait, ça va, il se passe rien. Et donc, du coup, voilà, ça permet au corps de se calmer, etc. Et de pas forcément s'emballer plus. Et voilà, donc après, je me retrouve aux soins intensifs pendant quasi 3 jours. Et près 10 jours. En musique, en unité de soins intensifs cardiologie, en réanimation 3 jours, et après 10 jours en musique, et après 1 mois en rééducation cardiaque à l'hôpital. Donc, période un petit peu compliquée, mais...
et un peu compliquée, et justement, à ce moment-là, est-ce que tu te dis que toi, dans ta tête, tu vas réussir à remonter sur un ring? Les médecins, c'est quoi?
Déjà, j'étais pas sûr de passer... de passer les premiers jours, parce que moi je suis quelqu'un qui est très franc, et quand je parle avec les médecins, comme j'ai fait à ce moment-là, je leur demandais de me dire la vérité tout simplement. Et en fait, quand vous avez un infarctus, surtout comme le mien, en fait, il faut comprendre qu'il faut être pris très rapidement en charge. Donc normalement c'est dans les 3 heures pour éviter l'arrêt massif. Moi je suis resté beaucoup plus que 3 heures avec ce problème-là. Je suis arrivé au bloc, il était quasiment 19h30, 20h. Donc je suis resté déjà toute la journée avec le caillot qui bloquait la coronaire, et ça les médecins ne comprennent pas en fait comment j'ai pu rester en vie avec quasi 7 heures d'artère obstruée. Donc après je lui ai posé la question tout simplement, je lui ai dit pour me rassurer, est-ce que je vais m'en sortir tout simplement. Et bah, il m'a dit écoute, je peux pas m'avancer sur ton cas, c'est un cas qui est extrêmement compliqué. Au vu du nombre d'heures que t'as passé sans avoir le cœur irrigué. Et du coup, ils m'ont dit, voilà, bah, tu vas passer par plusieurs étapes. Il y a les 3 premiers jours qui sont critiques. Ça veut dire, pendant 3 jours, ton cœur, il peut encore s'emballer. Malheureusement, on pourra plus faire grand chose puisque ton cœur, il est tellement fatigué. Même maintenant, après ce qu'il vient d'avoir, que ça m'étonnerait que tu puisses continuer à vivre. Après, il y a le cap d'une semaine, les 7 jours. et ensuite vous avez le cap de 1 mois, et quand vous passez les 1 mois, votre taux, on va dire, comment on appelle ça, les possibilités de survie, elles augmentent crescendo. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, d'autant plus que quand j'ai fait mon infarctus, la nuit, la même nuit, j'ai encore mon cœur qui s'est emballé une deuxième fois en réanimation. Donc c'est une période qui est quand même un peu compliquée.
Et ton histoire, je pense que c'est l'une des plus touchantes du MMA français. Et finalement, ce qui est beau dans tout ça, c'est que t'as déjoué tous les pronostics, t'as réussi à te relever. T'avais annoncé une fin de carrière, hein, pour eux c'était plus possible que tu combattes.
Bah, au début,
pourtant,
on parlait de greffe.
T'y es retourné.
Au début, je devais me faire greffer, sauf que le cœur était tellement abîmé, il est toujours abîmé aujourd'hui, de la même façon qu'il l'était au moment de mon infarctus. On parlait de greffe, sauf que j'ai refusé, tout simplement, j'étais catégorique. Je leur ai dit non, j'ai pas envie de jouer avec ça, vous me greffez pas. Donc après, la solution, c'était de porter ce qu'ils appellent une life vest. Donc j'avais un défibrillateur externe, parce qu'on voulait m'opérer. Quand j'ai refusé la greffe, on voulait me mettre un genre de pacemaker. Mmh. Et j'ai refusé aussi, je leur ai dit non, vous allez pas me toucher. Je reste comme ça. Et on fait pas de folie plus que ça. Et donc ensuite, je me suis retrouvé avec une life vest, donc un défibrillateur externe. C'est comme un genre de gilet pare-balles que vous portez comme ça. Donc je l'avais pendant quelques semaines autour de moi. Et en fait, ils se déclenchent tout simplement si ils sont plus le rythme cardiaque. C'est des trucs qui sont collés sur la poitrine, etc. Et donc voilà, je suis passé par plusieurs étapes qui sont compliquées. Et après, les médecins, je leur ai posé une question toute simple, comment c'est arrivé. Et moi, si tu m'expliques pas comment c'est arrivé, ne me demande pas autre chose. Ça veut dire, j'ai toujours été comme ça. Si tu veux que je fasse quelque chose, dis-moi comment ça marche. Si tu sais pas comment ça marche, je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Et ben, avec les médecins, c'était pareil. Je lui dis comment ça arrivait. Il a pas su me répondre parce que j'ai eu une hygiène de vie qui était complètement normale, on va dire. Et au début, ils me croyaient pas forcément. Donc, ils m'ont fait une panoplie de tests pour savoir si je me dopais, pour savoir si je prenais de la drogue, pour savoir si je buvais, pour savoir si je fumais. Tous les tests sont revenus négatifs, bien évidemment. Et donc ils m'ont dit bon, en gros t'as gagné au loto, mais dans le mauvais sens, quoi. Donc de ce principe là, comme ils savaient pas comment c'était arrivé, on sait que c'est une plaque d'athérome qui s'est détachée, c'est un petit peu de cholestérol que le corps fabrique lui-même qui s'est détaché de la veine et qui est venu obstruer la coronaire. Mais pourquoi ça arrivait, parce que c'est pas censé arriver. Pourquoi ça arrivait, c'est un mystère. Donc moi j'ai regardé le chirurgien, je lui ai dit écoutez, tu sais pas comment ça arrive. Comment ça arrive, ne te pose pas la question de savoir comment je vais réussir à remonter dans la cage un jour. C'était la discussion que j'avais eue avec lui, parce qu'il m'avait dit écoute, fin de carrière, etc. Et moi j'étais pas d'accord avec lui. Et aujourd'hui on se connaît toujours, hein, on se voit de temps en temps, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas non plus comment j'ai réussi à remonter à l'intérieur de la cage, à récupérer certaines aptitudes qui étaient tout simplement impossibles pour lui, et des personnes dans le même cas que moi n'osent même pas, enfin ils s'approcheraient même pas de ce que je suis capable de faire. J'ai un cœur abîmé, on va dire, vraiment abîmé. Une fraction d'éjection, c'est la façon dont le cœur bat. Chez une personne lambda, ça tourne aux alentours de 55 à 70%. Donc un cœur sain, c'est à peu près ça. Moi, je suis descendu à 28%. Et donc j'ai un cœur qui se contracte quasi plus, en fait. Et donc comme c'est le cœur qui permet d'oxygéner les muscles et de faire en sorte que vous puissiez courir, voilà, etc., monter des marches et tout, moi normalement je suis pas en état de pouvoir monter, comme ils disent, un étage sans être essoufflé, mais c'est pas mon cas. Et donc après j'ai été suivi par un protocole à l'hôpital pendant 3 ans, puisque je leur ai servi de cobaye. J'ai bien voulu justement leur servir de cobaye pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Après 3 ans, ils ont tout simplement lâché l'affaire, ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit on comprendra peut-être dans 20 ans, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire.
Finalement t'es une anomalie, et cette anomalie
continue à battre. Je suis un bug dans la matrice.
Et tu vas du coup recombattre très prochainement le 14 décembre.
Ouais.
C'est quoi ton état d'esprit à l'approche de ce combat? On va sûrement finir l'émission dessus, hein, un petit mot pour ce combat à venir.
Écoute, comme d'hab, j'ai hâte d'y être, je suis content, j'ai signé pour être à l'intérieur de la cage le 14 décembre, donc pour moi c'est un jeu en fait, c'est un sport comme un autre, c'est comme si que tu me disais viens on va boire un verre.
Moi je t'invite, un peu plus compliqué quand même.
Je t'invite à venir regarder mon combat le 14 décembre.
Je t'inviterai pas trop souvent.
Tout simplement, après mon état d'esprit, je suis quelqu'un de très serein, très cool, je le vis bien. C'est mon sport depuis 2008 maintenant, c'est une partie de moi.
Ce sera au COF, diffusé sur RMC le 14 décembre contre Carlos Salazar. On aime bien donner le mot de la fin à nos invités. Est-ce que tu as un petit message à passer à quelqu'un, que ce soit
à nos auditeurs,
tes proches, nos auditeurs,
proches,
un petit message?
Ouais, bah écoute, tout simplement, si vous avez des rêves, croyez-y, battez-vous pour, et vous arriverez aux objectifs que vous vous êtes fixés avec beaucoup de persévérance. N'abandonnez jamais pour rien, c'est tout.
Magnifique.
En tout cas, t'es un bel exemple. Et nous, merci, merci beaucoup.
Merci nous aussi. Est-ce que t'as un petit mot pour ton papa, pour Malixi là?
C'était ta première, en tout cas. Mais en tout cas, merci, merci à l'équipe, merci à Camille, merci à toi, Mélik.
Merci à toi aussi.
À Farah, Jam, Etar, merci beaucoup. Et puis, bonne chance, on sera là, nous, on sera devant.
Merci à vous.
Et Nour, t'es la bienvenue autour du plateau.
Merci, merci beaucoup.